Aujourd'hui, le Réverbère cède le micro à des participantes et des participants de la démarche jeunesse sur la carboneutralité. Cette démarche, soutenue par l'Institut du Nouveau Monde et le Lab 22, Laboratoire d'innovation sociale et environnementale, a pour objectif de faire des jeunes Québécoises et Québécois les principaux acteurs et actrices d'un dialogue participatif et inclusif qui permettra de comprendre les enjeux associés à la carboneutralité et d'identifier des pistes de solutions. Le travail des derniers mois a amené un groupe à réaliser le balado qui suit et qui se penche sur la carboneutralité et l'intelligence artificielle. Bonne écoute!
Bon, bonjour, je m'appelle Zichuan et j'ai 16 ans.
Bonjour, je m'appelle Alice et j'ai 15 ans.
Donc aujourd'hui, on reçoit nos deux invités, Alejandra et Régis. Donc, je me demandais, Alejandra, c'est quoi votre travail? Que faites-vous dans la vie?
Merci, Alice et Zichuan de nous recevoir aujourd'hui. Donc, mon nom, c'est Alejandra Zaga Mendez. Je suis députée de Verdun depuis 2022 et... Comme députée à l'Assemblée nationale, je porte le dossier de l'environnement pour le deuxième groupe en opposition, donc Québec solidaire. Et avant de me lancer en politique, moi, j'ai travaillé beaucoup à l'université en recherche en environnement, tout ce qui est conservation, développement durable, et surtout de voir comment on accompagne les entreprises dans la réduction de leurs effets à l'environnement, que ce soit la réduction des gaz à effet de serre. Et c'est en faisant mes recherches puis mon travail à l'université que j'ai eu la piqûre aussi de faire la politique parce qu'on se rend compte qu'on a des solutions qui ne sont pas mises en place, mais que ça passe par des actions concrètes au gouvernement, dans les politiques publiques, et c'est pour ça que je me suis lancée en politique provinciale.
Impressionnant comme parcours. Et vous, Régis, que faites-vous dans la vie et c'est quoi votre travail?
Alors, merci de me recevoir dans votre balado. Bien moi, je m'appelle Régis Leray, je suis directeur technique à Spitom Energy avec 17 ans d'expérience en développement logiciel. Donc nous, notre mission à Spitom, c'est de créer des centres de données verts pour les entreprises spécialisées en intelligence artificielle, mais aussi qui font dans l'industrie récréative, donc des effets spéciaux. Donc nous, comment on arrive à créer des centres de données verts? Tout simplement, c'est qu'on installe nos centres de données dans des bâtiments existants, tels que des hôtels et des spas, et on capture tout le déchet énergétique des serveurs, c'est-à-dire la chaleur, et on arrive à chauffer l'eau. Donc en faisant cette solution-là, eh bien justement, on permet à des entreprises privées de se décarboner et de réduire leur empreinte carbone. Et notre mission à Spitom, justement, c'est d'installer plein de mini-centres de données dans le Québec et de verdir le numérique.
Alors, aujourd'hui, notre objectif est de démystifier la carboneutralité et de comprendre comment cet objectif interagit avec l'univers de l'intelligence artificielle. Comme vous le savez probablement, le Québec s'est engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Donc, notre première question est dirigée à Alejandra. Quelles mesures sont actuellement mises en place pour arriver à la carboneutralité et quel est le rôle du gouvernement dans l'atteinte de cet objectif?
Alors, le gouvernement doit jouer un rôle très important dans l'atteinte de la carboneutralité, qui est, dans le fond, d'avoir un équilibre entre les émissions des gaz à effet de serre, donc du CO2, du méthane, et ce qu'on appelle des puits de carbone, des lieux dans lesquels on va capter nos émissions pour arriver à des émissions qui sont équivalentes à zéro, donc d'être neutre. Mais pour y arriver en 2050, ça veut dire qu'on doit drastiquement réduire nos émissions parce qu'on n'a pas une autre planète. On ne peut pas juste avoir des forêts un peu partout. Donc, en termes de puits de carbone, il y a une limite de ce qu'on est capable d'avoir. Et c'est pour ça qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, que c'est un accord international qui nous dit qu'il faut que le réchauffement climatique soit autour de 1,5 degrés Celsius dans le futur. Et au Québec, la première chose qu'on a faite, qui est quand même très bien, c'est avoir une cible intermédiaire, c'est-à-dire en 2030, c'est-à-dire qu'on va commencer la réduction là et on l'inscrit dans la loi. La cible qu'on a, c'est des 37,5. Ceci dit, si on veut être ambitieux puis écouter la science, il faut que cette cible-là, en 2030, soit encore plus ambitieuse. Parce que ce que les GIEC ou qu'est-ce que les grands scientifiques nous disent, c'est qu'il faut qu'un pays développé, comme le Québec, il faut qu'on réduise autour des 43-45. Fait que ça, c'est la première chose qui doit être faite, avoir des cibles plus ambitieuses. La deuxième, c'est d'être capable de détailler comment on va y arriver pour tous les secteurs. Jusqu'à maintenant, on a juste détaillé 60 % du plan de réduction et il en manque beaucoup de mesures à identifier, surtout dans le transport. On le sait que c'est le plus grand émetteur, c'est le transport individuel. On encourage beaucoup les gens encore à utiliser leur voiture et ce qu'on veut, c'est donner des options aux gens un peu partout au Québec pour faire du covoiturage, pour prendre les transports en commun, pour prendre les transports interurbains. Et ça, c'est une des places dans lesquelles il faut qu'on travaille davantage si on veut atteindre la carboneutralité en 2050.
Puis vous, comme député qui siège dans l'opposition, est-ce que vous trouvez qu'on en parle assez justement en chambre au Salon Bleu, la question de notre carboneutralité?
Je pense qu'on en parlait encore plus parce que ce que je vous disais tantôt, dans la loi, on parle juste de 2030. Nulle part dans la loi, on parle de 2050. Quand j'ai rencontré des représentants du ministère de l'Environnement, ils me disent qu'on n'a pas encore modelé, on ne s'est pas encore penché sur l'horizon 2050. Mais ça s'en vient très, très vite. Là. Chaque année qu'on passe, puis on perd cet objectif-là, bien, c'est des actions qu'on va prendre le retard, puis on ne pourra pas avoir un impact très concret. Fait que pour moi, oui, il faut qu'on en parle encore plus. Et l'environnement, ça va être sur toutes les lèvres. C'est la question du siècle. Je vous regarde, c'est la question de votre génération, je dirais même la de toutes les générations, si on veut assurer la qualité de vie sur Terre.
Maintenant, nous avons des questions pour Régis. Donc, à l'heure où on se parle, les émissions de GES des serveurs informatiques sont comparables à celles du parc aérien mondial. Donc, à quoi, selon vous, ressemblera l'impact environnemental de l'intelligence artificielle d'ici 2050?
Alors, en fait, déjà, l'IA, il faut bien comprendre que l'IA en lui-même ne génère pas, en fait. C'est un programme informatique, ça fait rien. En fait, ce qui génère réellement une empreinte carbone pour notre planète, c'est que derrière de l'IA, il y a des serveurs informatiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les serveurs informatiques, ils sont, comme ils disent, dans le cloud, dans les nuages. En fait, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas, les nuages, malheureusement. Enfin, ils sont réellement dans des entrepôts, ce qu'on appelle des centres de données, en fait. Et donc, un centre de données, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut savoir que c'est en général, on va prendre une image, c'est un terrain de foot rempli de serveurs informatiques, de racks, qui aussi font fonctionner d'énormes ventilateurs. Donc ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un centre de données, c'est super énergivore. Et surtout, en fait, pourquoi c'est énergivore ? Parce que, un, il faut alimenter les serveurs informatiques et en plus, il faut les refroidir. Ce qu'il faut juste aussi, il faut se rendre compte, après la dimension des centres de données, c'est qu'il y en a à peu près 5000 autour du monde aujourd'hui. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que déjà, il y a une augmentation des centres de données de plus de 50% dans les 5 dernières années. Donc à peu près, il y en avait à peu près 2000, maintenant on est passé à 5000. Juste en 2024, on va vouloir créer 54 centres de données juste au Québec. Microsoft va investir plus de 500 millions. En fait, tous ces chiffres-là, ils sont pour vous dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a 3% des émissions de gaz qui représentent à peu près pour les centres de données. Donc ça, c'est comparatif à peu près à 7 milliards de voyages dans le monde de trajets aériens. Mais si on ne fait rien, en fait, en 2030, ce sera 13 milliards. On passera à 10%. Donc, l'IA, comme aussi d'autres secteurs d'activité, est aussi très responsable, en fait, de cette empreinte carbone.
Si je peux me permettre, c'est sur un sujet sur lequel on se penche très peu. Mm-hmm. Et on parle de comment on va atteindre la carboneutralité, mais mm-hmm. on sait que ça va passer par aussi des nouvelles technologies, puis mm-hmm. on ne connaît pas l'impact de ces nouvelles technologies. Et même, vous disiez, on parlait tantôt de rôle à l'Assemblée nationale. Comme législateur, on n'est pas consulté là-dessus, on n'est pas informé là-dessus. Moi, je pense qu'il y a un grand vide là en termes d'information, en termes de législature aussi, pour comprendre c'est quoi l'effet de ces nouvelles technologies sur l'environnement qui peuvent aider, mais de l'autre côté, est-ce qu'elles peuvent avoir un effet contre-productif envers les objectifs de réduction des gaz à effet de serre?
Tout à fait, hein. Tout à fait.
Puis en parlant de l'intelligence artificielle, on sait que Montréal, c'est un des pôles de l'intelligence artificielle. Mm-hmm, mm-hmm. Pour rester à l'avant-plan de ce domaine, il faut toujours renouveler et croire, par exemple, si on parle de ChatGPT, de 5G, est-ce que, mettons, la carboneutralité et cette technologie-là peuvent coexister? Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de dire les deux peuvent être coexister?
Déjà, en fait, il faut se rendre compte que l'IA aujourd'hui, c'est un peu récent, en fait. On va dire que ça n'existe pas depuis 20 ans, là, c'est dans les 10 dernières années. Il y a eu, et même avec, justement, avec le chat GPT d'aujourd'hui, eh bien, on voit les utilisations qu'on peut faire et surtout, il y a un vrai engouement. Ce qu'il faut juste se rendre compte, c'est déjà que le marché de l'IA, c'est aujourd'hui, ça représente 200 milliards. Mais en 2030-2050, ça va être 1 700 milliards. Donc, qu'on le veuille ou non, en fait, on va dire, ce qu'on voit, c'est que l'IA est déjà implémentée et utilisée dans les utilisations de tous les jours. C'est-à-dire que des entreprises l'utilisent, mais si vous utilisez ChatGPT, peut-être pour vos devoirs, pour des questions, vous allez voir. Déjà, il faut juste savoir que déjà, l'utilisation quotidienne de ChatGPT mensuelle, c'est 1 milliard de personnes.
C'est bon.
C'est beaucoup. Quand même, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai fait mes petites recherches avant de venir. J'ai quand même pris une claque. J'ai fait, ah ouais, là, on n'est pas dans un truc. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que, qu'on le veuille ou non, l'IA, elle va rester, en fait, on va dire. Elle n'est pas là pour disparaître, malheureusement. Et si on ne fait rien, justement, comme l'IA est très présente dans nos vies de tous les jours, il va falloir l'accepter, mais surtout de trouver des solutions pour justement améliorer ça, en fait.
Puis, d'où le fait qu'il faut qu'on détaille l'ensemble de interventions qu'il faut faire dans tous les secteurs d'activité. Comme je vous disais, on a juste 60% des mesures qui ont été établies, mais il faut le voir pour chaque secteur. Puis l'industriel, on doit encadrer aussi les nouvelles technologies. Elles font partie de cet univers-là, puis mieux les comprendre. Je pense qu'il y a tout un travail. On parle d'environnement, mais aussi des questions éthiques, des questions de vivre ensemble qui vont se poser pour bien les comprendre, pour mieux les encadrer, parce que c'est sûr que si on a comment je peux dire, un domaine qui est en explosion, mais c'est normal qu'on va utiliser plus de ressources, donc plus d'effets environnementaux, et ça ne va pas venir à venir en contre-courant de tous les autres efforts qu'ils sont en train de faire dans la société pour atteindre les objectifs de carboneutralité.
Et évidemment, comme vous avez dit, l'IA est en évolution. Et si on ne contrôle pas, ben ça va progresser de plus en plus vite. Puis c'est un chiffre, je dirais, en explosion. Et quelles sont les solutions qu'on pourrait actuellement pour limiter l'impact écologique de l'IA? Vous avez parlé que vous avez une technologie.
Ouais.
On peut savoir davantage dans quel plus spécifique.
En fait, déjà, avant de ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les centres de données d'aujourd'hui, en fait, on va dire, donc il y en a 5 000 dans le monde là, la majorité est contrôlée déjà principalement par Amazon, Google et nos amis Microsoft, en fait, on va dire. Donc eux, ils contrôlent la moitié des plus grands centres de données dans le monde. Il faut savoir, en fait, que eux-mêmes, en fait, sont intéressés à réduire leur empreinte carbone. Pour une raison très simple, en fait, c'est qu'il y a un coût de fonctionnement de ces bâtiments. C'est-à-dire qu'il y a un coût d'électricité, donc ils font tout pour mettre en place des solutions qui leur coûtent moins cher pour justement réduire la consommation électrique et aussi naturellement l'empreinte carbone. Il se passe aussi que même ces centres de données-là, eux aussi, essaient de trouver des solutions alternatives. Bon, si vous avez peut-être eu vent de que ils installaient maintenant des centres de données dans la mer. Bon. Là encore, on peut encore se poser des questions sur la. Parce qu'il n'y a pas eu d'études environnementales hein, sur le sous-marin. Ils ont dit que ça marchait, que c'était viable et qu'il y avait moins d'électricité. Mais après, on peut encore se poser des questions sur la faune et la flore à l'intérieur. Il y a d'autres projets aussi qui ont été lancés au Québec, qui s'appellent QScale. Donc là, l'idée, c'était d'installer. Enfin, c'est en opération, c'est d'installer un centre de données et justement de récupérer toute la chaleur. Mais là encore, on est quand même dans une dynamique qu'on. On construit un terrain de foot et toute la chaleur de ce centre de données va être répartie, va être redistribuée, donc par exemple pour une serre, pour chauffer en hiver. Enfin, tout a été pensé pour récupérer cette chaleur. Et puis nous, en fait, à Spitom, justement, on se différencie un peu, où là, l'idée, justement, c'est ne plus construire. Pour nous, on trouve déjà que c'est une aberration de construire des terrains de foot. Justement, c'est l'idée, c'est de dire, et pourquoi on ne réutiliserait pas ce qui existe déjà? Donc des hôtels, des piscines. Donc là, justement, nous, on vise des bâtiments qui ont besoin de grands volumes d'eau chaude. À l'intérieur, on met une certaine quantité de puissance informatique et toute cette chaleur, justement, qui va être captée. Donc toute la technologie existe en plus. C'est même pas une technologie que nous inventons, hein. C'est une technologie qui existe déjà. Ça s'appelle soit du water cooling ou de l'immersion cooling. Donc soit vous mettez de l'eau sur vos serveurs pour les refroidir ou même vous les tremper dans des bains d'huile et vous captez toute la chaleur et vous chauffez de l'eau. Donc ça, c'est un vrai intérêt économique parce que justement, ça permet de réduire, bah, bien sûr, l'empreinte carbone parce qu'on n'a plus besoin de rejeter de l'air chaud dans l'air, mais aussi, ça a un intérêt parce qu'on réduit la consommation électrique. Et ça, ça commence à devenir intéressant parce qu'on est dans un, si on l'a entendu, au Québec, avec tous les grands projets électriques qui s'en viennent, on va manquer de plus en plus d'électricité. Donc nous, justement, notre projet, c'est justement de se démarquer là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a un projet à Drummondville qui va être opérationnel en janvier. Puis on s'en vient pour chauffer la piscine de Blainville. Donc on a, je veux dire, il y a une demande et il y a la possibilité de le faire. Donc c'est juste à nous de l'exécuter et de le faire. Voilà.
C'est ma prochaine question.
Puis de notre côté, je pense qu'en vous écoutant, je me dis, il y a deux choses qu'on peut faire. C'est que pour faire ce type de projet-là, il y a de l'investissement de l'État, il y a des subventions, mm-hmm. il y a de l'argent qui vient de la part du Québec. Puis je pense qu'on peut exiger que l'argent qu'on donne, bien, ce soit conditionnel à qu'il y ait un plan de réduction de GES, que ce soit conditionnel à qu'on respecte des normes environnementales, surtout dans un esprit de carboneutralité. Et ça, je pense que ça va aider à encourager des projets qui sont vraiment carboneutres et qui sont dans cet esprit-là versus des projets qui vont juste augmenter les émissions et faire quelques arrangements cosmétiques au niveau de l'environnement. Je pense que là, il y a un rôle. Puis le deuxième, je pense, c'est l'information. Donc, on est très, très peu sur les impacts. Et j'encourage, en fait, dès qu'on nous sensibilise constamment à c'est quoi ces impacts-là puis comment, comme au niveau de la législature, c'est quoi le manque qu'on a au Québec à régler. Chaque fois que les gens me disent comment on fait pour changer les choses, ben ça passe par la pression citoyenne. La seule façon que quelqu'un à l'Assemblée nationale ou au gouvernement bouge, c'est parce que les gens en parlent, c'est parce que ça passe dans les médias, c'est parce qu'il y a des jeunes qui se mobilisent. Plus les gens sont informés puis se mobilisent puis sont conscientisés, ben ça nous fait la pression pour changer les choses. C'est par là que ça doit se passer. Donc, d'être capable de comprendre l'enjeu, de savoir c'est quoi l'impact de l'IA sur l'environnement, va beaucoup déjà sensibiliser les gens puis nous dire aux politiciens, mais là, faites votre travail, ça, parce qu'on a la législature qui manque au Québec, on est très conscients.
Donc, l'environnement et l'intelligence artificielle vont être deux grands débats qui vont façonner la société de demain et influencer les jeunes directement. Qu'est-ce que vous pensez que comme les auditeurs devraient tirer de cette conversation?
Je pense que déjà, si vous êtes rendu à la fin de ce podcast ou jusqu'à maintenant, c'est parce que vous êtes déjà intéressé et que vous voulez avoir encore plus d'informations. Pour moi, c'est la clé. Être capable d'en discuter, d'en apprendre et par la suite d'en parler aux gens autour de vous. Je pense que ça, c'est très important. Comme jeune, on dit des fois, on n'a pas de pouvoir, mais on en a un. C'est de parler à nos amis, de parler dans nos groupes, de parler à nos parents, de parler aux gens qui nous entourent et d'après de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, de chercher des voix collectives. Ça peut être très bien une lettre, ça peut être une pétition, ça peut être écrire à des gens autour de vous, puis leur dire « Hey, il y a cette question-là auquel on n'a pas encore toutes les réponses, puis ça vaut la peine de s'y pencher.
» En fait, aussi, je suis tout à fait d'accord que moi, par exemple, personnellement, avant de commencer mon projet Spitum, j'avais pas connaissance de tout ça, en fait. C'est en faisant justement toutes mes recherches, je me suis dit « Waouh !» Là, il y a un vrai problème et en plus, on n'en parle presque pas. Il faut savoir aussi pourquoi on n'en parle presque pas, parce que ça dérange un peu. On va dire honnêtement, les centres de données comme Amazon, toutes ces compagnies-là, c'est pas un beau sujet, en fait. Ils vont plus dire « On va faire de la carbonéterie », mais en tant que jeune, c'est vrai que je supporte beaucoup l'idée de dire « informez-vous, allez discuter avec des gens ». Puis c'est intéressant aussi de savoir dans quel monde on vit, tu sais, qu'on utilise une application, tu fais « Ah ouais, qu'est-ce que je fais en fait ?» Parce que, en fait, on est tous contributeurs à ça. Même nos actions de fait d'utiliser, par exemple, même Facebook, hein, TikTok, tout ça, derrière, en arrière, il y a plein d'algorithmes de AI pour vous inciter à utiliser tel contenu. Mais si vous faites déjà le nécessaire de moins utiliser une application, quelque part, c'est aussi un impact. C'est un petit impact, mais un autre. Puis, il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant, c'est que, en fait, ce qu'on pense toujours, c'est qu'on attend des autres de trouver la solution. Mais, par exemple, la solution que moi, j'ai entreprise, ça ne veut pas dire que vous-même, vous ne pouvez pas l'entreprendre, en fait. Vous avez le pouvoir encore de trouver des solutions, de même d'aller challenger des gens et même de peut-être créer une mini-entreprise ou de participer à une association, enfin, de faire l'action qui vous pense qui est la plus cohérente avec vos valeurs. Et ce que vous avez envie de, peut-être d'entreprendre, tout simplement.
Donc, mettons, de dire qu'on utilise moins des applications d'intelligence artificielle, mm-hmm. peuvent réduire d'une manière significative au niveau impact environnemental.
Bien sûr. Le truc, c'est que c'est ça que j'ai essayé d'expliquer, c'est que au tout début, en fait, on pense toujours l'IA, c'est un truc, c'est un programme. Mais en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que derrière, il y a un serveur qui n'est pas dans le cloud, qui n'est pas dans les nuages, mais qui est dans un local et qui chauffe. Et plus ce serveur il est utilisé, plus il chauffe. C'est un constat très simple. Faites fonctionner votre ordinateur portable et faites-le jouer aux jeux vidéo, par exemple, parce que ça va demander beaucoup de puissance. Vous allez voir, votre machine, elle va chauffer. Là. Et puis, vos genoux, ils vont commencer un peu à brûler. Et c'est plus vous allez utiliser de manière intensive ces serveurs-là, plus ils vont chauffer et plus ils vont dégager. Donc moi, par exemple, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je n'installe plus les applications des réseaux sociaux sur mon téléphone, par exemple. J'utilise juste le navigateur web. Ce que ça fait, c'est que ça m'envoie moins de notifications, ça communique moins avec moi, parce que dès que vous communiquez avec un serveur ou une application, ça va envoyer de la donnée, en fait. On ne s'en rend pas compte, en fait. Tout est transparent, en fait. C'est genre, je prends mon téléphone, je vais aller sur une application, je regarde. Moi-même, j'utilise des applications sur mon téléphone. Hein. Je ne dis pas que je ne le fais pas. Mais j'essaie moi-même de me conscientiser et de me dire, tiens, si je changeais mes habitudes. Et je ne dis pas, n'utilisez plus les réseaux sociaux, je disais juste, utilisez-les de manière différente. Mmh. Si tu n'as pas ta notification dans les 5 minutes, mais tu l'as dans 2-3 heures, qu'est-ce que ça va changer vraiment ta vie, sérieusement?
Puis de l'autre côté, ça passe par une meilleure réglementation de ce qu'on appelle les géants du web, qu'on parlait tantôt des données, mais c'est la personne qui utilise qui devient un peu le produit. Et ces industries-là, c'est des méga industries multinationales. Ils se font de l'argent sur le dos des utilisateurs. Et je pense qu'on va avoir une meilleure législation, mais aussi demander de payer un peu le prix, c'est-à-dire d'avoir des taxes, des impôts qui sont suffisants pour, avec cet argent-là, financer d'autres projets. Ça, c'est une des choses pour lesquelles il faut pousser. C'est pas mal que ça se passe parce que, en tout cas, là, on parle d'environnement, mais il y a d'autres effets culturels qui sont à cause de ce type de plateforme-là.
Chers auditeurs, ceci va bientôt ramener à la fin de notre podcast. J'espère que vous avez aimé. D'ailleurs, merci à Alejandra, merci Régis d'avoir
merci parlé beaucoup. Avec nous.
Et voilà, Alice, qu'est-ce que tu en penses de cette fin de balado?
Mais moi, ça m'a beaucoup appris, je sais pas toi.
Mm. Oui, moi aussi, ça m'a beaucoup enrichi d'une manière d'une autre de comprendre ces enjeux sociaux. Très inspirant.
Très inspirant.
D'être venu.
Mais merci.
Merci à vous. Bonne journée.
Ce balado est une initiative de Zichuan Feng, Alice Letendre, Gwendoline Eloi et Mishmana Basquin qui ont participé à la démarche jeunesse sur la carboneutralité. Ce projet a été soutenu par l'Institut du Nouveau Monde et le Lab 22, Laboratoire d'innovation sociale et environnementale, et financé par Environnement et Changement climatique Canada. Apprenez-en plus sur la démarche jeunesse sur la carboneutralité en visitant le www.inm.qc.ca.